Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Vous avez rendez-vous aujourd'hui pour la deuxième édition de Lecture en tête-à-tête, programmée par l'autre radio et Lecture en tête, dans le cadre des 30 ans du Festival du Premier Roman, organisé à Laval par Lecture en tête du 5 au 8 mai. Nous sommes en présence aujourd'hui de l'écrivain Yahya Belaskri. Yahya, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que dans un premier temps, vous accepteriez de nous parler de votre prénom, comment est-ce qu'il se lit, comment est-ce qu'il se dit et quelle est sa signification?
Oh, c'est gentil, merci. Pour la première fois qu'on me pose cette question, je suis bien content. Yahya, on a littéralement, ça veut dire le vivant, celui qui vit. Et donc, mais en même temps, Yahya, c'est, dans le Coran, c'est le nom de Jean-Baptiste. Dans le Coran, Jean-Baptiste est un prophète, alors que dans la Bible, c'est celui qui a baptisé le Christ. Donc, et les restes, disons, de Jean-Baptiste sont à la mosquée des Omeyyades, à Damas, en Syrie, et c'est écrit « Nabi Yahya », le prophète Yahya. Donc voilà d'où vient mon prénom. Et puis, je suis bien content que mes parents m'aient donné ce prénom, parce que quand même, c'est assez déterminant un prénom. Je trouve, on le porte, ou c'est lourd, ou c'est... Et là, je crois que ça me porte, moi, je trouve bien. Je suis vivant, effectivement, j'aime bien, la vie est fantastique.
Vous êtes journaliste, écrivain, poète, vous êtes l'auteur de 8 romans, de 5 essais. Vous avez également collaboré à la rédaction des 5 numéros de la revue Apulée, pour laquelle vous êtes secrétaire de rédaction. Pouvez-vous nous dire ce que ces différentes formes d'écriture vous apportent? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'écrire toutes ces formes différentes et de participer à tout cela?
Un écrivain, c'est la création, c'est aussi la réflexion. Donc créer, écrire de la littérature, bien sûr, mais aussi donc, c'est un citoyen et donc il participe à l'investigation du monde dans lequel il vit et essayer d'approcher ces mystères. Donc, j'ai senti à un moment donné la nécessité... J'ai commencé en fait par faire des essais avant d'écrire des romans. Mais le roman est venu comme une nécessité à un moment donné. Donc, la poésie parce que... Je voudrais écrire de plus en plus de la poésie parce que pour moi c'est l'expression la plus forte, la plus complexe, et puis parce que la poésie demande énormément de travail. La poésie, nous dit Henri Michonnik, surgit du silence, et donc comment faire parler le silence? Donc c'est assez mystérieux et ça m'intéresse d'aller sur ce niveau-là. Quant au roman, c'est parce que ça confère à l'écrivain, à l'écrivaine, une liberté complète. Un roman, on peut dire ce qu'on veut, tout, absolument tout. Il n'y a pas de limite puisque c'est de la fiction. C'est une création totale, on peut très bien se retrancher devant cette idée de création complète et d'aborder tous les sujets qui concernent la condition humaine. Donc voilà, j'ai commencé par des essais, puis après la littérature, je n'en sors plus, je suis content, c'est ce que j'aime faire, c'est mon travail, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est mon métier, je ne sais faire que cela. Changer une ampoule, c'est difficile. Si, j'arrive à changer une ampoule, mais enfin, s'il faut prendre le tournevis et tout ça, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais écrire, lire, j'espère que je sais.
C'est d'un côté aussi du bricolage,
d'écrire. C'est pas tout à fait du bricolage, c'est plutôt de l'artisanat. C'est plus proche de l'artisan que de l'ouvrier. Mais l'ouvrier aussi, c'est respectable, et c'est un travail remarquable que fait l'ouvrier. Mais l'artisan, lui, il va y aller tout doucement avec ses mains pour fabriquer quelque chose. Donc l'écriture, oui, travailler sur la phrase, travailler sur les mots, donc c'est proche de l'artisan.
Vous aviez été repéré par Lecture en tête pour votre premier roman, Le bus dans la ville. Donc il a été publié en 2008, aux éditions Vent d'ailleurs. Donc cela fait près de 14 ans que vous côtoyez l'équipe de Lecture en tête ainsi que ses bénévoles. S'il y avait un ou plusieurs souvenirs que vous souhaitez partager avec nous, ce serait lequel ou lesquels?
Oh, pour le festival du premier roman de l'étude littérature contemporaine de Laval, il y a beaucoup de souvenirs et de merveilleux souvenirs. Alors, je citerai peut-être depuis que je suis... En fait, je suis arrivé pour mon deuxième roman. Si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut. Moi, je n'ai jamais été sélectionné pour le premier roman ici à Laval. Donc, c'est pour le deuxième roman, si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut, qui a eu le prix Ouest France Étonnant Voyageur au festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo en 2011. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à Laval, que je n'ai plus quitté, ni Nectar en tête, ni Laval, parce que c'est un formidable festival. Et puis, je disais, j'ai plein de souvenirs, de rencontres avec des écrivains, des discussions, des débats, vraiment très forts, très intéressants, et puis beaucoup de joie, parce qu'il y a la rencontre avec des lectrices, des lecteurs, avec l'équipe de Lecture en tête. Et c'est un long compagnonnage. Et puis, si je dois me rappeler quelque chose, c'était... une fois, nous avons fait un happening à la fin du festival. C'était dans le hall du chapiteau, comme ça. Et il y avait un musicien avec moi qui jouait du oud. Et lui aussi, il disait des poésies en arabe. Et moi, j'étais avec lui. Et il y avait ce public très divers qui ne savait pas d'où surgissaient les voix. Et c'était assez magnifique, c'était très beau. Mais tout le festival, chaque année, est comme de cette manière-là. Il y a de telles rencontres, de tels projets qui n'associent ici, parce qu'on rencontre des gens et puis il y a des affinités qui se créent et on fait des projets.
Mais c'est rigolo, en fait, que vous ayez été repéré pour votre deuxième roman, parce que ça fait le lien vraiment avec le prix du deuxième roman pour lequel vous êtes membre du jury.
C'est cela.
Mais que je n'ai pas eu. Quelque part.
Oui, que je n'ai pas eu le prix du deuxième roman. Mais en fait, effectivement, c'est assez particulier parce que généralement, ici, on vient pour son premier roman et puis après, il y a un suivi. C'est ça la caractéristique du festival. C'est de suivre le primo-romancier, comme on dit, et de voir comment, pour son deuxième roman, il y a un prix éventuellement. Et puis, continuer d'avoir toujours un œil sur les écrivains qui sont venus la première fois à Laval. Mais le festival s'est élargi aux littératures contemporaines. Donc, il se donne la possibilité d'inviter des écrivains qui ont écrit deux ou plusieurs romans pour précisément investiguer le thème de l'année. Et donc, c'est ainsi que je suis arrivé. Et j'en suis bien heureux parce que s'il fallait absolument venir à Laval pour son premier roman, je ne serais jamais venu alors. Donc je ne serais pas là. Mais là, je suis là, je suis vivant. Je suis à Laval et puis je fête avec l'équipe, toute l'équipe dirigeante et les bénévoles, les 30 années du festival.
Mais j'en suis bien heureuse aussi parce que c'est dans le cadre du prix du deuxième roman qu'on s'était rencontrés, nous.
Absolument.
On faisait le jury tous les deux. Bien, avant de parler de votre dernier roman, Le silence des dieux, je vous propose d'écouter un morceau qui vous a inspiré lors de son écriture, donc qui est Caruso de Lucio Dalla. Je vous laisse écouter.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, e scioglie il sangue dentro da me sai. In mezzo al mare, pensò le notti là in America, erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue di me bene sai. Della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai, e scioglie il sangue di me. È una catena, e scioglie il sangue di me.
Alors vous venez de me dire que lorsque l'on écrit des choses difficiles, c'est important justement d'avoir de la musique pour se laisser porter.
Oui, la musique, pas toutes les musiques. Caruso, ici, parle à une femme. Cette chanson, Lucio Dalla, c'est, il lui dit « Quand je me plonge dans tes yeux bleus, j'ai l'impression de me noyer. Je t'aime tant. Tant, tu sais. » C'est assez extraordinaire, cette expression d'amour entre un homme et une femme. Et donc ça tient vivant un être. C'est l'amour qui tient notre humanité. La haine nous détruit. C'est l'amour qui nous porte, qui fait qu'on ait des rêves, qu'on ait des ambitions, qu'on entreprenne, qu'on crée. Donc c'est ça ce que chante Lucio Dalla. Et moi, cette chanson, j'ai sans cesse, je l'écoute. Je l'écoute parce que ouais, c'est le beau.
Et là, ça fait le lien du coup avec votre dernier roman, Le silence des dieux, publié aux éditions Zulma en 2021, dont vous vous êtes inspiré d'un fait réel pour pouvoir le rédiger. Pouvez-vous nous parler de cette histoire et de ce qui vous a donné envie de vous en emparer ?
En fait, un écrivain, une écrivaine s'empare de tout ce qui est autour de soi, de la vie, du monde, donc de ce qu'on voit, de ce qu'on nous raconte, de ce qu'on a vécu aussi soi-même. Et donc ça veut dire qu'on s'empare du monde, quoi, de tout ce qui se passe dans le monde. Et un écrivain et une écrivaine, nous sommes des éponges. On absorbe tout. Et puis après, ça fait son travail au fur et à mesure. Et un jour, bon, on s'est dit, ça, je vais commencer à écrire. Et j'écris. Et on y va. Et on m'a raconté, il y a quelques années en arrière, une histoire qui se passait en Amérique latine, d'un groupe paramilitaire qui avait puni un village parce que l'adjoint du chef de ce groupe paramilitaire était considéré comme un traître. Voilà, c'est ce qu'on m'a raconté, ça a été étonnant. Donc quand on me l'a raconté, j'ai dit « Waouh, ça, je pense que je ferai mon prochain roman ». Et c'était là, moi, je portais cela. Et puis au fur et à mesure, on le constate tous hein, et toutes, qu'il y a une course vers l'enfermement, vers le repli sur soi, qui est assez vertigineuse un peu partout. On élève des frontières entre la Biélorussie et la Pologne récemment, tout récemment. On a laissé des gens qui sont venus d'ailleurs, les laisser dans un no man's land entre les deux frontières, comme ça. Et par ailleurs, on élève des murs électrifiés, des barbelés pour empêcher l'autre d'arriver. Et puis aussi, j'ai pensé à la situation en Algérie où le mouvement de contestation, le Hirak, s'est arrêté du fait du Covid et en même temps parce que le pouvoir politique voulait le bloquer, parce que ça le dérangeait. Et donc, il me semblait qu'on s'enfermait de plus en plus. Et cette question de l'enfermement, je l'ai matérialisée donc, dans cette histoire qui se passe dans un village. C'est une métaphore de ce qu'est notre monde aujourd'hui, puisque ce qui m'intéresse, c'est la condition humaine, c'est ce qu'il advient d'un homme et d'une femme, parce qu'une personne, un individu, une femme, un homme, c'est fondamental, c'est essentiel, c'est unique. Chaque homme, chaque femme est unique. Et donc l'atteinte à une femme ou un homme, c'est une ignominie. Et donc, voilà, l'idée s'est imposée d'écrire l'histoire de ce village qui est du jour au lendemain enfermé. Je n'ai pas voulu expliquer pourquoi il est enfermé, c'est juste, je suis passé là-dessus en disant, voilà, c'est un jour, un habitant du village sort pour prendre le car qui emmène à la ville, mais le car ne vient pas. Et puis, trois jours après, il retourne sur la route goudronnée parce que le village, c'est des pistes autour, pour prendre le car, mais il ne vient pas, c'est des militaires qui arrivent et disent « Bon, vous ne pouvez plus sortir de chez vous, rentrer chez vous, et c'est fini, c'est fermé. » Et donc, ce qui m'intéressait le plus, c'est de voir comment, quand on s'enferme, quand on est enfermé, comment on peut vivre. Qu'est-ce qui se passe dans une communauté, quelle qu'elle soit, fermée, où il n'y a plus d'apport extérieur, et que les gens se retrouvent d'un seul coup entre eux, seulement. C'est le propos de ce roman.
Eh bien, accepteriez-vous de nous lire un extrait pour que les personnes puissent s'immerger dans ce roman ?
Alors, je vais lire les premières pages, les deux premières pages de Paulin, qui mettent en place, disons, ce que va devenir ce village. Je sais, sur les traces des ancêtres, là où l'on célèbre les noces du soleil et de la pierre, à l'ombre de la montagne, naît le vertige. Trouble des pas écrasés par le soleil, exaltation des pierres millénaires, les chemins s'ouvrent sur les roches et offrent un monde où règne la beauté des bâtisseurs d'hier. Au milieu des lentisques, cils et cystes, seul le murmure des pierres qui s'agrippent aux figuiers rompt le silence. Les tamaris, courbés par le vent, jettent des ombres bienfaisantes. Je sais. Dans les ruines de ce pays, les hommes s'effacent pour faire place au chant qui surgit de chaque pierre, chaque buisson. Une litanie qui se joue des dieux et des saints. Depuis les thermes jusqu'au gradin de l'amphithéâtre, lieu du dit et du verbe, en passant par le temple, les graines brûlées par la lumière dure et blanche s'enfoncent dans les gouffres interdits. Les reliques émergent des tombes creusées il y a une éternité. Tout naît à l'aube, et s'éteint à chaque lune. 2000 ans et quelques rides, tout se renouvelle sans cesse. Je sais, au milieu des vestiges, les traces s'estompent, subsistent l'émerveillement des premiers jours, quand palpite l'innocence. Ici se mêlent les senteurs aiguës, des fleurs nourries d'embrun. L'empreinte des ancêtres ne résiste pas aux automnes infernaux. Seul le vent s'invite sur les sentes et façonne le paysage. Il roule les pierres, secoue les brindilles, lève les grains à venir, cisaille les arbrisseaux et délivre les racines pour les porter au cou des hommes défaits. Ici, rien ne subsiste de la vanité des dieux, répudiée à jamais par le souffle chaud qui descend du ciel ou prend naissance dans les dunes. Nul orgueil, seule demeure l'humilité de ceux qui se consument au feu de la vie et de l'espérance. S'abandonner en perd de la raison pour éloigner les vautours prompts à forcer sur leur proie. Nulle charogne pour étancher la soif du crime. La rumeur du désastre s'éloigne, chassée par l'immortalité du lieu, l'immobilité du ciel, le silence des pierres, l'appel des ancêtres. Ici, sur cette terre de soleil tragique, la splendeur fait barrage au fracas. Les cigognes s'y nichent en été, présage de la joie qui vient. Aux crépuscules ébranlent le ciel, les étourneaux signent des figures dignes des plus beaux ballets. Ici, au milieu des pierres, vertige de l'éblouissement, s'élancent les rêves les plus hardis et les suppliques des plus faibles. Ici naît le désir du monde, Dunia. Je sais les épines, les désillusions, les chemins qui s'affaissent, les aubes obscurcies. Je connais la brûlure de l'intérieur, l'amertume des jours de défaite. Oui, je connais la rage, puisée dans les mots des bardes et ceux du Père. Ici, pourtant, les hommes ont érigé le mensonge et le cynisme au rang de vertu. Ils ont piétiné les justes, essoré les pauvres, humilié les femmes, écrasé l'enfance, renversé les vieillards. Ils ont fait taire les poètes, emprisonné les mots, puni la beauté et enterré l'invention. Ici, et l'histoire des hommes qui m'ont fait naître. Ils ont abandonné toute mesure et ignoré l'élan du cœur, lui préférant le ténèbre du crime.
Merci beaucoup pour cette lecture.
Merci.
Donc votre roman, c'est aussi, je l'ai lu comme un véritable hommage pour les femmes, pour les mamans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus qu'est-ce qui vous a guidé à faire ce choix-là?
Alors, hommage, si vous le dites, c'est bien. Je suis... C'est bien, d'accord, mais en fait, c'est aussi approcher cette société patriarcale avec tout ce qu'elle a de plus hideux, de plus inacceptable dans le rapport aux femmes depuis longtemps, depuis toujours peut-être. Et donc, dans ce village fermé où les hommes vont se déchirer, il y a aussi certains qui sont porteurs du beau, qui vont essayer de faire des choses pour s'en sortir. Mais là où les autres, un certain nombre de gens qui prennent le pouvoir vont se déchirer, vont, harceler des innocents, les femmes se retrouvent en première ligne, c'est elles qui souffrent le plus. Et à un moment donné, elles prennent conscience de leur situation et vont décider d'une action assez spectaculaire. C'est leur manière de résister et de renaître. Parce que dans ce village, elles portent les stigmates de l'humiliation et de la maltraitance. Et devant cette situation, elles décident de partir et de laisser les hommes seuls. C'est assez intéressant, cette idée m'a paru intéressante. Bien sûr, j'aurais pu inventer une histoire où les femmes décident de ne plus faire l'amour avec les hommes. Ça aurait été aussi extraordinaire. Mais moi, mon intention, c'était aussi qu'il n'y ait pas que cela, qu'il y ait autre chose. C'est-à-dire, c'est refuser le diktat des hommes et renaître. C'est-à-dire proposer une autre société. Et une autre société, puisqu'elles vont... elles entreprendre de vivre avec leurs enfants ailleurs, et c'est elles qui dirigent leur destin. ce qui me semblait, moi, plus intéressant, en tout cas dans ce roman.
Alors, ce qui fait aussi la spécificité de votre roman, c'est qu'il y a de nombreux passages de poésie, dont la plupart ont été écrits par vous. Comment est-ce que ça se passe en termes de procédé d'écriture pour justement mettre le parallèle entre le roman, la poésie ?
Et dans ce cas-là, je n'ai pas intégré la poésie au texte. Ça se faisait au fur et à mesure de l'écriture. C'est-à-dire la poésie est partout, même dans la prose. Mais disons, les poèmes, je ne les ai pas écrits et introduits, non. Au fur et à mesure que j'écrivais, il y a des moments où le poème s'imposait. Quand je parlais, par exemple, j'écrivais à un moment donné sur ce personnage, cette femme qui s'appelle Badra, la femme d'Abdelkrim. Et pour moi, c'est une tisseuse. Et donc, j'ai tout de suite, en parlant de la tisseuse, s'est imposé l'idée que le poème s'est imposé, le poème s'est imposé seul, il a surgi de cette histoire de la tisseuse. Je suis la tisseuse, fille de tisseuse. Donc le poème, il est venu de lui-même, quoi. C'est pas quelque chose que je veux dire, c'est pas un miracle, mais c'est dans le travail, dans la manière dont je conduisais l'écriture, c'est là qu'il a surgi. Et puis après, le fils vivant, Abdelkrim, son mari, quand il entend sa femme chanter comme ça, lui vient l'idée de l'accompagner dans sa douleur. Et donc, quand elle dit « Je suis la tisseuse, fille de tisseuse », il dit « Je suis le fils du vent, enfant du désert ». J'oubliais comment... Mais c'est un peu ça. Donc, ça se confondait et ça s'imposait. Et de cette manière-là, tout le livre est construit ainsi. Bien sûr, j'ai quelques poèmes là que j'ai empruntés à des bardes algériens du 18e et 19e siècle que j'ai introduits parce qu'ils allaient avec le texte. Ça fonctionnait bien. Et puis, il y a un texte anonyme sur la circoncision. Sur la circoncision, c'est un texte anonyme qui est repris chez beaucoup de populations du Maghreb de manière générale. Quand on circoncit un enfant, un garçon, donc les femmes chantent ce chant-là, et j'ai bien mis que c'était pas à moi, que c'était anonyme, mais je l'ai traduit en français. Et c'est assez... ça fonctionne avec l'histoire que je raconte. Donc c'est venu au fur et à mesure, ce n'est pas... je les ai pas intégrés, c'était l'expression de cette expression-là que je voulais.
Tu n'avais pas prévu de nous lire un poème ?
Non, mais...
C'est possible. Celui de la tisseuse, justement. Je sais
pas, la tisseuse, oui.
Il est très beau.
Alors, comme je ne l'avais pas préparé, je vais le retrouver tout de suite. La tisseuse, c'est Badra, et son mari, c'est Abdelkrim.
C'est ça.
Ouais. Non, le premier commence page 59, 58. Ya Rab, sans vous saurait-on dévider le poème ? Sans vous saurait-on n'en pas perdre le fil ? Qu'alternent les mots, qu'ils vous livrent mes réflexions. Qu'alternent les mots, leurs motifs sont à ma disposition. Moi la tisseuse et vous le tout-puissant, les figures sont notre lot. Nous activons-nous à l'une ? C'est à la prochaine qu'il faut penser. Ya Rab, éloigne le malheur, commande à l'oiseau de chanter, que l'eau coule dans les ruisseaux. Ainsi pourrions-nous jouir de vos bienfaits. Ya Rab, mes fils s'enlacent, mes songes s'effacent, les dards s'enracinent dans mon cœur. Je suis la tisseuse, fille de tisseuse. Et puis, son mari qui répond, enfanté sur un lit d'alpha, je fus couvert d'un burnous blanc, qui a noirci sur mes épaules. Enfant des sables et fils du vent, je peine parmi les orties et les ronces. Nulle aube pour mes yeux, ni sarmente à agripper. Coloquinte et euphorbe, mon amer breuvage. Sous le palmier des ancêtres, senteur vive qui se m'entoure, dispersez votre précieux arôme, annihilez la puanteur de la charonne afin que naisse l'aurore. Et quand leurs mots se croisent, Elle dit « Je suis la tisseuse, fille de tisseuse ». Et lui, il dit « Je suis l'enfant des sables et fils du vent ». Elle dit « Un fil de chaîne, un fil de trame ». Et lui, il dit « Et mon amour breuvage ».
Merci beaucoup, Yaria. On vous retrouvera avec plaisir donc du 5 au 8 mai pour les 30 ans du festival du premier roman à Laval. Avant de nous quitter, vous vouliez partager avec nous un coup de cœur musical. Il s'agit de Sonate Roll de Lisa Stanfield. Est-ce que vous voulez nous dire quelques petits mots avant sa diffusion?
Quand j'écrivais « Si tu cherches la pluie arrivant d'en haut », mon deuxième roman, j'ai rencontré cette chanson par hasard parce que j'écoute de la musique souvent et puis j'aimais Lisa Stansfield et cette chanson, je ne la connaissais pas. Et après, donc, j'ai écouté plusieurs fois, 10, 15, 20 fois, j'ai compris les paroles et c'était tellement, ça parlait tellement d'amour que je me suis dit, allez. Ce qui fait que pendant un an et demi, j'écoutais tout le temps ça, cette chanson. « It's so natural when you touch me ». C'est magique, non?
It's so natural the way you touch me. So natural the way you run your fingers through my hair. It's so natural the way you make me feel like I'm a lady. Natural. It's so natural. When I feel low, you pull me higher, you warm me up, set me on fire. Well, there's no way in this world I could ever be without you. To come over and give me hungry kisses of love, of love, of love. So true. And there's no way in this world I could ever be without you. It's so natural me, so natural the way you run your fingers through my head. It's so natural you make me feel like I'm a lady. Natural. Very soul, pull me closer so I won't feel the cold. Just love, love, your love. So true. And there's no way in this world I could ever be without you. Make me feel like I'm a lady.
Merci beaucoup et puis belle journée à vous et rendez-vous au Festival du Premier Roman.